Sœurs et chers amis, aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 25 concernant l'étude la plus importante qui consiste la prière. Cela concerne la chose absolument la plus importante. Chers frères et sœurs, tout conducteur spirituel est frappé de constater la soif qui existe parmi les chrétiens fidèles quant à un enseignement qui est sérieux sur la prière. Les croyants non initiés ne savent pas comment prier, bien que leur cœur soit tourné vers Dieu. Jean-Baptiste avait enseigné à ses disciples à prier et les 12 vinrent à Jésus-Christ pour lui demander de faire de même pour eux. Oui, on a besoin d'apprendre à prier selon la parole de Dieu, tout comme à prêcher et à gagner des âmes. Ça va de pair. Et dans cette étude des Saintes Écritures, il est nécessaire encore d'être dirigé, tout comme l'Éthiopien qui disait à Philippe « Comment comprendrai-je, à moins que quelqu'un ne me guide ?» Le succès des divers ouvrages déjà parus sur ce sujet démontre suffisamment le besoin, vraiment le besoin le plus grand, qu'éprouve le peuple de Dieu d'apprendre à prier et à obtenir de Dieu ses bénédictions. Rencontrer dans quelque mesure, si je peux, ces besoins de l'âme, les besoins de notre âme humaine en aidant jeune et vieux, pour pouvoir mieux savoir comment demander et à recevoir du Seigneur, tel est donc notre but de toutes ces études. Nous avons une pénurie lamentable de prières efficaces au sein du peuple de Dieu. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Les églises sont sans puissance, les chrétiens ne sont ni joyeux ni prospères dans leur vie spirituelle. Et nos bien-aimés ne sont pas sauvés, ça c'est grave. Et tout cela parce que nous ne savons pas nous emparer des promesses de Dieu dans la prière. Le réveil, la bénédiction des chrétiens et le salut des multitudes de précieuses âmes attend sans aucun doute la prière des croyants. Donc, portez remède à cette déficience dans la vie de prière du peuple de Dieu, c'est en même temps remédier à l'état des chrétiens et des églises et ouvrir la porte à toutes les bénédictions. Et c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur sur ces CD d'enseigner à prier selon les Écritures saintes et à stimuler la foi en un Dieu qui exauce la prière. Pour parler franc, ces études sont un enseignement biblique sur la prière, et non pas, écoutez bien, et non pas une dissertation philosophique. Ces études sont vraiment sur le fondement, totalement sur le fondement, sur et certain de la révélation infaillible, contenue évidemment dans les Saintes Écritures, et ceci d'un Dieu qui nous a fait connaître sa volonté dans son saint livre et qui fait ses délices d'exaucer, croyez-moi, la prière de ses enfants. Nous trouvons dans la Bible de grandes et précieuses promesses relatives à la prière ainsi que les conditions à remplir pour obtenir l'exaucement. Notre Sauveur, il nous dit, Demandez et l'on vous donnera. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Et il ne faut pas dire cela avec du cynisme ou en pensant « ce sont des belles paroles », dit toujours. Ce serait voué à l'échec d'avance si nous n'avons pas un minimum de foi dans notre cœur et de confiance. Et je dis un minimum, je devrais dire, on devrait même avoir un maximum de confiance dans notre Seigneur. Il est même dit plus loin, « Demandez et vous recevrez », selon Saint Jean chapitre 16, verset 24. Ainsi, voyez-vous, la prière consiste à demander et à recevoir. Et en réponse à la prière, Dieu intervient miraculeusement. Oh oui, il change les temps et les circonstances. Il change le caractère et l'état de ceux qui ont des doutes. Voyez-vous, pour moi, la prière est une affaire très simple et positive qui consiste à demander à Dieu et à recevoir de lui selon les besoins de chaque jour, vivant ainsi dans la foi constante de la prière exaucée comme Jésus-Christ l'a promis dans Saint Jean, chapitre 16, verset 24. On pourrait répéter quand même cela tellement que c'est important. J'ai dit que pour moi, la prière devrait être comme pour vous, une affaire très simple et positive qui consiste à demander à Dieu et à recevoir de lui selon les besoins de chaque jour, vivant ainsi dans la joie constante de la prière exaucée, comme Jésus-Christ l'a promis dans Saint Jean, chapitre 16, verset 24. En effet, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il n'est pas question ici d'une simple théorie, pas du tout. Chaque promesse mentionnée a été mise à l'épreuve et je peux rendre le témoignage personnel d'un Dieu, croyez-moi, qui répond à la prière. Je sais qu'il le fait puisqu'il a répondu des milliers de fois à mes propres requêtes. Ces exaucements étaient tellement définis en dehors du domaine des probabilités humaines qu'aucune qu'aucun auditeur ou aucune auditrice sincère ne saurait douter de leur authenticité. Ah oui, chers amis, nous avons affaire avec un Dieu d'amour qui accomplit des miracles pour tous ses enfants qui se confient en lui. Et c'est mon privilège de dire, comme beaucoup d'autres, ce qu'il a fait pour moi. Si donc j'emploie le pronom personnel, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Ma femme et moi avons prié pour des problèmes bien trop longs, hélas, à expliquer sur ce CD, mais où nous avons pu constater que notre Dieu, notre Seigneur, est vraiment fidèle. Des croyants ont commencé à demander et à recevoir le salut de leurs bien-aimés, les secours matériels dont ils avaient besoin, la victoire dans les tentations, la sagesse de Dieu pour même résoudre de leurs problèmes parfois difficiles. Chers amis, nous allons étudier maintenant quatre points, quatre sujets qui sont importants sur l'exaucement de la prière. Donc, voyez-vous, sans la foi, nous l'avons déjà dit, il est impossible que la prière soit exaucée, c'est clair, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Et là aussi, ça vaut la peine de répéter. Sans la foi, il est totalement impossible que la prière soit exaucée, car il faut que celui, que celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Premièrement, ou si vous voulez, le premier point, puisque nous avons dit que nous verrons quatre points. Premièrement, il est dans la nature même de Dieu. Ah oui, c'est ce qui nous est dit, toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Il est donc, comme j'ai dit, dans la nature même de Dieu, d'écouter et d'exaucer la prière. Notre Dieu est un Dieu qui entend, qui exauce la prière. C'est là, croyez-moi, un des attributs, une partie, qu'on peut dire, de sa nature. Et c'est pourquoi il a inspiré le psalmiste à le nommer « Toi qui écoutes la prière » psaume 65, verset 3. « Toi qui écoutes la prière. » C'est lui-même qui se donne ce titre et il le fait. Oui, il accomplit ses délices d'être appelé le Dieu qui répond à la prière. Donc les attributs et le caractère de Dieu sont exprimés dans les différents titres qui lui sont donnés dans les Saintes Écritures et l'un de ces titres, c'est tout simplement « Toi » qui écoute la prière. La miséricorde de Dieu ne change pas. Elle fait partie de son caractère que les fluctuations du temps n'affectent en rien. La sainteté et la justice de Dieu ne varient jamais, jamais. Il est toujours le Dieu juste et saint. Et il dit de lui-même dans Malachie chapitre 3 verset 6 « Je suis l'Éternel et je ne change pas. » On a dit Malachie chapitre 3 verset 6. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 verset 8. Ainsi, au cours des générations qui se succèdent, il demeure carrément toujours le même Dieu. C'est celui qui se plaît à écouter et à exaucer la prière de tous ses enfants. Donc tous les hommes et les femmes viendront à toi, nous dit le psalmiste. Dieu entend donc les prières de tous les humains, aussi bien des païens. Ah oui, n'oublions pas que, évidemment, les païens sont beaucoup plus nombreux, mais même eux sont au bénéfice de sa grâce. Puisque il est Dieu, le créateur de tous, il prête l'oreille aux supplications d'une génération comme de l'autre. Il a pris plaisir aux prières d'un Hénoch qui marquait, on peut dire, l'ancien dispensation, et qui marchait en plus parfaitement avec Dieu, avec Yahvé l'Éternel. Et on oublie de nous rappeler que Dieu l'a enlevé au ciel pour qu'il ne goûtât point la mort. Il exauça donc les prières également d'Abraham, son ami, en délivrant le fameux Lot de Sodome, parce que ça, c'était quelque chose de grave, Sodome et Gomorre. qui ont méprisé tous les commandements de Dieu. Donc, je répète, il a exaucé les prières d'Abraham et il a délivré son ami Lot de Sodome et en lui accordant un fils dans sa vieillesse. Et plus tard, il a exaucé les prières d'Élie en ressuscitant l'enfant de la veuve et en envoyant la sécheresse et par la suite la pluie abondante et enfin en le prenant auprès de lui dans le ciel. Il a entendu la prière de Daniel qui était captif à Babylone, bien que sa nation fût en disgrâce, en le délivrant de la fosse aux lions et ses trois compagnons également de la fournaise ardente. Peu importe pour Dieu que les choses se passent avant ou après le déluge dans la terre d'Israël ou en captivité. De même dans le Nouveau Testament, vous pouvez consulter, vérifier, nous trouvons qu'il exauce plus que jamais les supplications de la Cananéenne, souvenez-vous, et du centenier romain, tout aussi bien que celle de l'apôtre Pierre, son apôtre préféré, on pourrait dire. Et il entend évidemment la prière du brigand à l'agonie et du publicain, exactement comme de la femme pécheresse, tout aussi bien que celle des hommes pieux et honnêtes. S'il existe, croyez-moi, des conditions à l'exaucement de la prière, des facteurs qui puissent l'entraver, eh bien cela provient uniquement de celui qui prie, mais non pas de Dieu. Car il est le Dieu qui ne change pas et qui désire toujours répondre à la prière en tout temps et pour tous les peuples de la terre. Il est dit au toi qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est ce que est écrit dans le chapitre 65, verset 3 des psaumes. Je répète, il est dit là, au chapitre 65, verset 3 des psaumes, au toi qui écoute la prière et tous les hommes, tous les femmes viendront à toi. Et dans bien des cas, Dieu entend même les prières des inconvertis. Et ça, c'est une réalité. La prière est donc un besoin universel dans l'humanité. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes et femmes viendront à toi. Et les inconvertis prient, on le sait, également quand ça va très mal pour eux. Malheureusement, c'est triste qu'ils prient seulement en ce moment-là. Ça, évidemment, ça, c'est une chose, mais que nous comprenons, puisqu'ils ne sont pas croyants, mais ils ont quand même peur dans des moments scabreux. Et c'est le sentiment de leur faiblesse, bien sûr, et de leurs besoins qui pousse tous les hommes et les femmes à crier au secours et à invoquer une puissance qui les dépasse de beaucoup. Et c'est une erreur de dire que les prières des pécheurs ne sont jamais exaucées. Il y a des témoignages à ce sujet merveilleux. L'aveugle guéri par le Seigneur, dans Saint Jean chapitre 9, il dit bien ceci: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, et cela est vrai dans le sens où il le comprenait. Cependant, le cas d'Agar dans le désert, celui des marins également, de Jonas, et dans beaucoup d'autres cas, ne peuvent être passés sous silence. C'est donc une erreur insensée que de fixer des limites à la miséricorde divine. Celui qui entend le cri des petits corbeaux réclamant leur pâture n'entendrait-il pas le cri d'agonie des hommes et des femmes en détresse qui sont à ses yeux de beaucoup plus de valeur que les passereaux? Les saintes écritures, comme l'histoire humaine, témoignent de prières exaucées par pure grâce, alors même que ceux qui les formulaient étaient encore dans l'ignorance totale de ce Dieu vers lequel montaient leurs requêtes. Oui, chers amis, il est donc dans la nature de Dieu de répondre aux prières même à des plus indignes créatures. Deuxièmement, ou si vous voulez le deuxième point, il est impossible de venir à Dieu et de lui plaire sans croire qu'il exauce la prière. Dieu est un Dieu jaloux de sa réputation d'entendre et d'exaucer nos prières. Il nous est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie vraiment de tout son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Il nous est dit ici qu'avant de venir à Dieu, il nous faut croire deux choses. Tout d'abord, que ce Dieu existe, et ensuite, qu'il récompense quiconque, absolument quiconque, le cherche diligemment, c'est-à-dire que Dieu entend et exauce la prière. Donc nul ne peut être sauvé, nul ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas que Dieu exauce la prière. Nous voyons donc ici ce qu'est vraiment ce que représente vraiment la foi. C'est la confiance qu'il y a un Dieu qui répond à nos prières, et cela pour chaque sujet particulier pour lequel nous l'invoquons. Nul ne peut donc connaître Dieu sans prendre conscience de cet attribut béni, savoir qu'il est un Dieu qui répond vraiment à la prière, croyez-moi. Et c'est un fait remarquable que c'est là le seul attribut de Dieu que nous devons reconnaître, que tous peuvent et doivent reconnaître. Avant de venir à lui, nous devons donc reconnaître que Dieu exauce, que Dieu répond. Il n'est pas exigé que on le connaisse comme étant notre créateur, ni qu'on pense à tous ses différents attributs et qualités, car tous sont englobés dans sa capacité d'exaucer la prière, de sorte que quiconque croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il en sait, elle en sait suffisamment à son sujet pour venir à lui, pour lui être agréable et de jouir de sa bénédiction. En d'autres termes, c'est là le cœur même de Dieu, de sa nature divine. C'est ce qui révèle sa toute-puissance, sa sagesse, sa grâce et sa sainteté. Il y a donc un Dieu, et ce Dieu répond à nos prières. Ceci résume tout le credo nécessaire pour vraiment pouvoir plaire à Dieu et se présenter devant lui. Dans ce cas, il est évident qu'en limitant la bonne volonté de Dieu de répondre à la prière, nous nous rendons coupables d'un grave péché d'incrédulité. Ceux qui insistent sur les lois naturelles et impliquent que Dieu lui-même est assujetti à ces lois rapetissent ainsi carrément la foi en annulant l'action et ne peuvent de ce fait forcément jamais plaire à Dieu. Je répète, ceux qui insistent sur les lois naturelles et impliquent que Dieu lui-même serait assujetti à ces lois, eh bien, ils rapetissent, ils rendent plus faible, il minimise ainsi la foi. Et de ce fait, ils annulent l'action et ne peuvent de ce fait plaire à Dieu. C'est logique, non? Voyez-vous, enseigner comme certains le font que Dieu était plus disposé à faire des miracles en réponse à la prière dans les dispensations anciennes, c'est porter atteinte à sa dignité. Et c'est porter atteinte pas seulement à sa dignité, à son caractère divin. Et c'est même pire, c'est de nier la nature même du Dieu qui répond à la prière. Bien des personnes croient que Dieu accordait plus volontiers ses bénédictions matérielles, telles que la pluie, par exemple, aux Juifs, que aux chrétiens des nations contemporaines. Ils considèrent que Dieu s'est simplement limité aux bénédictions temporelles toujours que pour Israël qui était sous la loi. Tandis qu'il n'accorderait aux chrétiens sous le régime de la grâce que les bénédictions spirituelles. Ça, c'est faux. Il en résulterait que les Juifs ne posséderaient que la moitié d'un Dieu et les chrétiens l'autre moitié. Donc, limiter la bonne volonté de Dieu de répondre à la prière de ceux qui le cherchent de tout leur cœur, c'est faire preuve d'incrédulité quant à la nature même de Dieu. Affirmer que dans les temps apostoliques, Dieu était plus disposé à faire des miracles qu'il ne l'est aujourd'hui, et encore une fois, de limiter sa puissance. C'est plutôt sur nous-mêmes que nous devrions porter le blâme en confessant franchement, honnêtement, que nous n'obtenons pas parce que nous ne demandons pas et que nous demandons mal afin de le consumer sur nos propres convoitises. Vous avez la référence dans Jacques, chapitre 4, versets 2 à 3. Et c'est notre incrédulité, n'oublions jamais, qui nous rend impropres à recevoir les grâces dont jouissaient les premiers disciples. Mais il ne faut aucunement en conclure que Dieu ait tout à coup changé son plan ou sa volonté d'exaucer les prières à ceux qui se confient en lui. Donc si au cours des dispensations, les voies de Dieu envers les hommes diffèrent sur certains points, ces principes demeurent absolument immuables. Autrefois, l'on offrait, il est vrai, des sacrifices sanglants, rappelez-vous, c'était le type et le symbole de la foi en un sauveur futur. Et maintenant, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Nous est-il dit, je crois, dans Hébreux chapitre 10, verset 26, les Juifs devait observer certaines règles quant aux aliments purs ou impurs, rappelez-vous. Aujourd'hui, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, nous est-il dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 4 à 5. Donc toutes nos philosophies actuelles qui vont avec le yoga, qui vont avec toutes sortes de choses qui nous viennent des Indes et où on croit que si nous devenons végétaliens, qui est encore pire que végétariens, nous allons nous épanouir dans la santé d'une façon formidable. Cela est absolument faux, une grave erreur, car nous avons connu une jeune femme de 35 ans qui, selon les médecins, est morte parce que elle avait été végétalienne depuis des années et elle manquait donc de beaucoup de choses dans son corps. Il faut faire attention à toutes ces philosophies sophistiquées qui nous paraissent supérieures à la parole de Dieu. Autrefois, les enfants juifs devaient être circoncis, mais à présent, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, selon Galates chapitre 5, verset 6. Autrefois, il fallait observer le sabbat et diverses lois cérémonielles en Israël, lesquelles n'étaient qu'une ombre du Messie à venir. Mais Christ étant venu, alors, toutes ces ordonnances ont été annulées et ont été clouées à la croix de Christ, à la croix de Golgotha, de sorte que le chrétien n'a plus à être jugé, il n'a pas à être jugé au sujet du manger et du boire ou de l'observation des jours, etc., etc. Vous pouvez lire cela dans Colossiens chapitre 2 verset 16. Croyez-moi, Dieu a usé de dispensations diverses dans ses voies envers les hommes. Le Saint-Esprit qui était autrefois avec les croyants demeure maintenant en eux, selon Saint Jean chapitre 14 verset 17. Ce changement s'est opéré quand Jésus-Christ a été glorifié par sa résurrection. C'est confirmé dans Saint Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Mais il n'en reste pas moins vrai que quant à sa nature même, Dieu ne connaît aucune variation. Il ne peut jamais changé. Il ne changera donc jamais. Dieu a toujours sauvé les pécheurs par la foi en Christ, son Fils bien-aimé. Il n'existe aucun autre chemin, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 10, verset 43. Dieu a toujours été saint. Il a toujours été absolument tout-puissant et miséricordieux. Il a toujours été le Dieu qui répond à la prière. Le psalmiste, il le comprenait bien lorsqu'il s'écria ceci sous l'inspiration même du Saint-Esprit. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et ce Dieu éternel, immuable, a toujours désiré entendre. Il a toujours été puissant pour répondre aux prières de ceux qui le cherchent et qui se confient en lui de tout leur cœur. Troisièmement, ou si vous voulez le troisième point, tous les les attributs de Dieu sont impliqués dans le fait qu'il écoute et qu'il exauce la prière. Une fois qu'on a compris que Dieu entend et qu'il exauce la prière, on peut se faire une idée de tous les attributs de la nature divine. Un Dieu qui entend la prière est un Dieu vivant, selon 1 Rois, chapitre 18, verset 26. Et ce n'est pas une idole de bois ou de pierre qui peut vous aider. Voyez-vous, quand les prêtres de Baal crièrent à leur Dieu au sommet du Carmel, il n'y avait aucune réponse à leurs supplications. Ils avaient beau de crier, de gémir, tout ce que vous voulez. De la part de l'idole qui était inerte, ils ne pouvaient s'attendre à rien. Mais, par contre, Yahvé l'Éternel, Jéhovah, le Dieu de l'univers, qui écoute la prière, est bien le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Un Dieu qui entend et répond à la prière est un Dieu omniscient. Il est omniscient. Dieu entend-il vraiment le cri de millions de ses créatures de tous les pays, peuples et langues simultanément? C'est ce que beaucoup se posent la question, je les comprends. Est-il vrai qu'il connaisse le cœur de chacun de ses suppliants? Alors c'est que nous avons affaire, me semble-t-il, avec un Dieu illimité, un Dieu qui connaît toutes choses. Si Dieu est capable de répondre à la prière, c'est qu'il possède la toute-puissance dans les cieux et sur la terre. Aujourd'hui, avec toutes les inventions sophistiquées de presque chaque jour, l'être humain se prépare pour que un faux messie aura toutes les possibilités de paraître comme si c'était le Dieu Tout-Puissant et qui pourra contrôler chaque vie, même tout ce que nous faisons dans le privé, absolument tout, presque on pourrait dire, comme un Dieu omniscient, omnipotent, etc. Et cela, croyez-moi, c'est pour bientôt. Ça va plus aller tellement long. Mais pour l'instant, revenons, chers amis, pour ne pas nous apeurer inutilement. Revenons donc à notre Dieu Tout-Puissant. S'il exauce la prière simplement pour la pluie, c'est qu'il a le contrôle du temps. S'il l'exauce au sujet de la moisson, c'est qu'il gouverne le soleil, l'humidité et tous les facteurs relatifs à la végétation. Dieu répond-il à la prière pour la santé, c'est-à-dire qu'il tient en sa main chaque corpuscule composant donc notre organisme, chaque fonction de notre corps qu'il a lui-même créé? S'il exauce enfin, quand on lui demande le réveil, le salut des pécheurs, c'est qu'il exerce son influence sur les âmes, sur notre esprit, sur la conscience et la volonté des hommes. Oui, le Dieu qui répondit à la prière de Josué, et ceci en arrêtant même la marche du soleil, selon Josué chapitre 10, versets 12 à 13, est vraiment le Dieu qui domine l'univers tout entier, le Dieu dont la puissance est infinie et illimitée. Si Dieu répond à la prière, s'il possède une sagesse et une puissance infinie, il va donc de soi que c'est aussi lui qui est le créateur de toutes choses. Celui dont les droits ne saurait être discuté, dont la volonté ne saurait être contrecarrée ni limitée. Ce Dieu-là qui répond à la prière est un Dieu qui opère des miracles. Et s'il existe en effet un Dieu qui entend et exauce la prière dans le sens biblique du terme, donc son œuvre est nécessairement miraculeuse, surnaturelle, sortant du domaine de l'ordinaire, non pas humaine, mais divine, non pas limitée, mais infinie dans son envergure. Certains ou certaines personnes, ils posent par exemple la question, mais Dieu opère-t-il encore des miracles aujourd'hui comme autrefois? Je vous répondrai oui. Je l'ai expérimenté moi-même. Oui, certes, mes chers amis. Et s'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, s'il est toujours le Dieu qui répond à la prière, sa méthode habituelle consistera à opérer des miracles. Oui, toute âme qui a été sauvée constitue un acte surnaturel et non pas une chose totalement naturelle. Chaque fois que Dieu intervient dans le domaine du temps pour accorder la pluie, par exemple, parce que quelqu'un a prié dans ce sens, n'est-ce pas déjà un miracle? Quand un malade est rétabli, contrairement aux prévisions humaines, il me semble que c'est encore une fois une intervention divine et carrément miraculeuse. S'il y a un Dieu, il doit nécessairement agir comme un Dieu. Or, un Dieu qui cesserait d'accomplir des miracles ne serait plus Dieu, le Dieu personnel qui entend et qui exauce la prière de la foi. Oui, chers amis, si Dieu exauce la prière, c'est donc qu'il est un Dieu d'amour et d'infini miséricorde. Oui, Dieu sait très bien qu'aucun d'entre nous ne mérite de recevoir l'exaucement de ses prières. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous ne méritons que la condamnation, l'abandon de Dieu et la mort éternelle. Mais Dieu aime les pécheurs et sa miséricorde est insondable. La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je répète, là où le péché a abondé, où le péché était incroyablement épouvantable parfois, eh bien, là, il est possible et un fait que la grâce divine peut surabonder, peut se manifester. Romains chapitre 5, verset 20. Et s'il est vraiment le rémunérateur de ceux qui le cherchent, celui qui prête l'oreille à leurs cris, ayant compassion de la misère humaine, alors il a fallu qu'il offrit son propre fils pour l'expiation du péché, et ceci afin de pouvoir, en toute justice, pardonner aux pécheurs et de les délivrer de l'enfer. Il fallait donc les transformer d'abord à son image et les prendre plus tard auprès de lui. Ah oui, chers amis, quand on réalise le fait que Dieu entend et répond à la prière, on possède le secret de son cœur et la révélation de toutes les grâces, de toute la puissance et la majesté de ce merveilleux Dieu infini. Un Dieu qui entend et qui répond à la prière est le seul vrai Dieu. S'il en était autrement, comment pourrait-il être le Créateur, le soutien de l'univers ? Comment pourrait-il être le sauveur des âmes perdues ? En considérant donc ces faits, nous pouvons comprendre combien Dieu aime à se faire connaître sous son titre, ô toi qui écoutes la prière. Nul ne peut lui plaire s'il ne croit vraiment qu'il est le Dieu qui exauce la prière de tous ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Et quatrièmement, ou le quatrième point, la nature elle-même témoigne d'un Dieu bienveillant qui exauce la prière. Oui, toute la nature nous parle de Dieu qui, ayant créé l'homme, aime sa créature et pourvoit à tous ses besoins. D'ailleurs, ce même psaume, chapitre 65, qui déclare que Dieu entend la prière, passe ensuite au thème de la bonté de Dieu, de la bonté de Dieu qui est exprimée dans la nature et qui se termine ainsi, écoutez bien, et je crois que ça vaut la peine de revoir ce psaume 65 depuis le verset 10 jusqu'au verset 14. Voyons ce qui est écrit dans ce merveilleux psaume 65. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas verse l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Oui, le psalmiste, inspiré du Saint-Esprit, semble nous dire que Dieu, qui répond à la prière, est aussi anticipé, et il a anticipé en effet tous les besoins de ses créatures, qu'on le veuille croire ou pas. Il a même arrosé le sol desséché, donné aux troupeaux affamés leur pâture et couvert de froment les vallées pour la nourriture de l'homme. Ainsi la nature entière chante les louanges d'un Dieu bienveillant, rempli d'amour et de miséricorde. De même, au psaume 104, nous trouvons encore les soins de Dieu envers la création animale et envers l'homme à travers la nature. Bien entendu, n'oublions pas que si maintenant il y a toute la glace du pôle Nord et du pôle Sud qui fond, que les déserts augmentent, qu'il y a un chambardement total dans la nature, il serait trop facile de simplement accuser Dieu quand n'importe quel cerveau moyen devrait pouvoir comprendre que c'est nous, l'homme, l'être humain, qui a détruit carrément toute la nature par notre monstruosité d'égoïsme. Et j'en fais partie, malheureusement. Nous devons être francs et sincères et ne pas mentir. Croyez-vous que tout à coup maintenant, tout ça change d'une vitesse phénoménale quand nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont vécu quelque chose d'harmonieux et de merveilleux. Et tout à coup maintenant, à une vitesse, on peut dire, phénoménale, est en train de changer à notre détriment, ça veut bien dire que nous avons rien respecté et que nous avons rejeté carrément Dieu. Et ça, c'est une réalité. Nous l'avons rejeté. Et nous payerons les conséquences. Et on sait bien, si vous écoutez les CD que j'ai fait là-dessus, eh bien, vous apprendrez que nous sommes actuellement à la fin de la dispensation de la grâce et que nous sommes tout au début de la dispensation du jugement à venir bientôt, qui est là à la porte. Mais revenons à notre étude sur la prière. Oui, on peut dire que le Dieu qui a créé les animaux, il a aussi pourvu à leur pâture. Le Dieu qui a créé les plantes leur accorde la pluie et le soleil pour les faire croître. Il a même prévu des plantes pour aider, pour que nous puissions nous soigner. Et pour toute créature, il a pourvu l'habitation et la nourriture. Et cela ne nous montre-t-il pas que Dieu prend son plaisir à satisfaire aux besoins, aux désirs de sa création tout entière? Car sans sa bénédiction, encore pour un moment, sur cette terre où il reste encore quelque chose de valable, eh bien, nous n'aurions pas la phytothérapie, les essences naturelles pour nous soigner, ou les diverses tisanes. Nous n'aurions rien de tout cela. Et ces soins, chers amis, ces soins divins, qui sont pleins d'amour envers l'homme, se manifestent avant même la naissance de l'enfant. Dieu a préparé pour le petit être à venir le sein maternel avec son lait nutritif. Et c'est là que, dès son entrée dans le monde, il va trouver sa vie, son parfait repos, sur le cœur de cette mère qui l'enveloppe de son amour. Dans la nature, Dieu a pourvu à tous les aliments variés nécessaires à l'équilibre du régime humain, ainsi que les remèdes destinés à la guérison de ces diverses maladies dont je vous ai déjà un peu parlé. Il n'y a donc aucun besoin dans l'homme auquel Dieu n'aurait pas pourvu à l'avance pour l'aider. Bien sûr, avec tous les pesticides, fongicides et tout le reste, quand il n'y aura plus d'abeilles, il ne faudra pas nous étonner qu'il y aura des familles gigantesques et épouvantables. Et ça commence déjà. Et oui, on a tout réussi à ficher en l'air. Enfin, chers amis, quand le besoin de combustible s'est fait sentir, l'homme a découvert les mines de houille, les sources de pétrole, etc., que Dieu avait cachées dans la terre, tout simplement pour son usage. Quand il voulut se fabriquer des outils pour son travail, Dieu lui a fait trouver le fer et les divers métaux nécessaires pour l'industrie. Oui, la terre elle-même est une preuve suffisante que Dieu aime l'homme, qu'il l'a créé, qu'il désire le bénir et pourvoir à tous ses besoins. Bien sûr que quand l'homme, dans ces derniers temps, a rejeté Dieu, forcément, on en payera les conséquences, ça c'est clair. Les dimensions mêmes de notre planète, la juste réparation entre les mers et les continents, nous révèlent la merveilleuse sagesse infinie de notre Créateur qui a tout formé d'une façon parfaite pour s'adapter aux conditions particulières de la vie humaine ici-bas. La nature ne peut nous révéler la croix et la rédemption, certes, mais elle nous parle bien clairement d'un Dieu d'amour dont le cœur est ouvert à l'humanité. Celui qui revêt de splendeur les lys des champs et pourvoit aux passereaux du ciel est aussi le Dieu qui répond à la prière de tous ceux qui le cherchent et se confient en lui. Et encore aujourd'hui, pour un temps, pour peu de temps. Il nous est dit dans Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni aucune ombre de variation. Dieu ne varie jamais dans aucun âge, on peut dire dans aucune dispensation, et avec aucun peuple, dans tous ses soins constants qu'il a accordés à l'homme, ce qui peut contribuer à son bien-être et à son bonheur ici-bas. Ne pouvons-nous donc pas en conclure également que Dieu est disposé à écouter le cri de l'homme qui, d'un cœur humble et contrit, recherche sa face pour lui exprimer ses besoins, et ça encore aujourd'hui. Sinon que notre Dieu est un Dieu qui entend et qui répond à la prière, chers frères et sœurs, appliquons-nous, oui, appliquons-nous davantage à prier, car la prière devient de ce fait le devoir le plus urgent de toute la création et pour tout chrétien. Dieu ne nous a pas commandé à chanter seulement et à chanter des cantiques du matin au soir, ce qui n'est pas faux, hein, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Et il ne nous a pas commandé de travailler sans cesse, ni de prêcher jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'il nous a surtout recommandé ? Il nous a recommandé de prier sans cesse, je dis bien sans cesse. Et ceci selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Les apôtres, peu après la Pentecôte, ont jugé bon de nommer des diacres afin de se libérer pour le ministère de la prière. Avez-vous entendu ? Pour se libérer pour le ministère de la prière et de la parole de Dieu. Actes chapitre 6 verset 4. Non pas seulement la prédication en tout premier lieu, mais la prière. Et ceci afin de nous appliquer à la prière et au ministère de sa sainte parole. Je répète, les apôtres, peu après la Pentecôte, ont jugé bon de nommer des diacres afin de se libérer pour le ministère de la prière et de la parole de Dieu. Actes chapitre 6, verset 4. Et ceci non pas simplement pour la prédication en tout premier lieu, mais en tout premier lieu pour la prière. Et ceci afin de nous appliquer, il est répété, de nous appliquer à la prière et même au ministère de la Sainte Parole. Oui, quand le roi Salomon a construit le merveilleux temple de Jérusalem et qu'il a célébré sa dédicace à l'Éternel, Dieu n'a pas dit qu'il écouterait particulièrement les chants des choristes lévites, ni qu'il observerait la fumée qui monterait du grand autel d'airain, mais bien ceci, il a dit « Mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 15. Et nous lisons aussi dans Ésaïe, chapitre 56, verset 7, que Dieu a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Je répète, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Parole que Jésus-Christ a citée dans les trois évangiles. Le temple était donc avant tout une maison de prière. L'intention de Dieu à travers toutes les cérémonies et les rites accomplis dans ce temple était de produire dans le cœur de son peuple une foi qui était et qui devait être vivante au Dieu qui exauce la prière et les inciter à invoquer le saint nom de l'Éternel. Il est donc impossible de plaire à Dieu sans vaquer à la prière. Or, sans la foi, nous est-il dit, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit de tout son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui, chers amis, avec le commandement et le don de la prière, Dieu a mis entre les mains des hommes une puissance sans mesure. Le Dieu Tout-Puissant s'est lié à ce don par son affirmation précise, il s'est déclaré prêt à accomplir ce que nous lui demandons à condition que la prière soit faite dans la foi et au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous exhorte à prier et nous donne ainsi une lettre de crédit que nous sommes en droit de lui présenter avec l'assurance qu'il tiendra vraiment sa promesse. Oui, la prière est la plus grande puissance dans le monde parce qu'elle peut diriger la main de celui qui dirige le monde. La prière est une possibilité unique. À travers elle, nous pouvons tout transformer, les hommes, les choses, les épreuves, les circonstances. La prière possède donc une force illimitée. À cause de cela, Satan cherche à nous empêcher de prier pour tout et par tous les moyens. Il sait que nous ne présentons aucun danger pour lui si nous travaillons beaucoup du matin au soir, même pour le royaume de Dieu. Mais alors, il sait parfaitement que nous lui arrachons son butin lorsque nous prions beaucoup. Ceci est très bien illustré par le tableau d'un grand maître qui représente une balance dont un plateau est tiré par 5 démons, tandis que sur l'autre plateau est assis un petit enfant qui simplement est en prière. Ce dernier plateau pèse beaucoup plus lourd et remporte la victoire. Oui, chers amis, une telle puissance est contenue dans la prière, dans la vraie prière. N'aurions-nous pas précisément un besoin urgent de prier lorsque notre temps est limité et que notre programme quotidien est surchargé afin que nous ne tombions pas par excès de travail dans la hâte, l'impatience et l'irritation? Seule la prière peut nous protéger et nous aider à achever notre œuvre, parce que par elle, nous demandons la bénédiction divine de laquelle dépend carrément toute chose. Comme l'aiguisement de la faux ne ralentit absolument pas le faucheur, de même la prière ne retarde absolument pas le travail. Nous devons savoir que la prière est l'acte le plus indispensable pour accomplir notre travail en vue de notre salut éternel. Comme notre travail est le reflet de notre vie de prière, tel sera, croyez-moi, le fruit de notre vie et la victoire dans nos épreuves. La puissance du péché est toujours brisée là où Jésus-Christ est imploré, où il est adoré et glorifié comme le ressuscité. Il est celui qui a vaincu la mort et qui a écrasé l'ennemi sous ses pieds. Dieu agit donc par la prière d'adoration qui glorifie l'être divin. Sa toute-puissance et sa force apportent la solution à nos difficultés et son amour console et guérit. Il est impossible d'exprimer par des paroles que le Seigneur est notre Dieu, quel sauveur, oh oui, quel conciliateur et quel rédempteur, quel vainqueur et quel roi. Acclamons donc, chers amis, ces noms qui traduisent son être. Ciel et terre doivent retentir de l'infinie louange pour un tel Seigneur. Comment pourrons-nous le louer dans les cieux si nous ne l'avons jamais fait ici-bas? Prier veut dire se présenter devant le Dieu Saint, me semble-t-il, avoir une audience devant le roi des rois. Comment pourrons-nous nous présenter devant lui sans être purifiés et sanctifiés? Comment pourrons-nous prier sans lui avoir abandonné notre volonté? Se laisser appeler à une vie de prière signifie toujours de se placer devant une révision de vie. Ne devrions-nous pas nous placer dans la lumière de Dieu, dans sa vérité qui nous libère? Dieu veut faire de notre vie, croyez-moi, une vie de prière, et par là même une vie de victoire et d'autorité spirituelle, dans la contemplation de sa sainte majesté. Par notre prière, Dieu ne veut pas seulement transformer notre propre vie, lui donner un sens et la rendre fructueuse. Il veut faire de nous, croyez-moi, par la prière, des porteurs de bénédiction pour beaucoup. Oui, chers amis, nous allons maintenant continuer encore pour un temps tout ce sujet très important de la prière dans notre prochaine étude. Mais pour l'instant, nous allons terminer ensemble, si vous le voulez bien, par la prière. Si on a encore assez de temps pour le faire. Seigneur Jésus-Christ, ô toi qui es le chemin, conduis-nous chaque jour. Ô toi qui es la porte, ouvre-nous l'accès de ton bercail. Ô toi qui es le pain, nourris notre âme qui est affamée. Ô toi qui es l'eau vive, abreuve notre cœur altéré. Ô toi qui es le cep, fructifie à travers tes humbles sarments. Ô toi qui es l'étoile brillante du matin et le soleil levant, dissipe nos ténèbres. Ô toi qui es le reflet de la gloire de Dieu, viens illuminer notre vie. Ô toi qui es le prince de la paix, apaise-nous. Ô toi qui es le témoin fidèle, fais-nous participer à la fidélité, à ta fidélité. Ô toi qui es le serviteur, enseigne-nous à servir. Ô toi qui es le juste et le saint, délivre-nous de la souillure. Ô toi qui es le lion de Juda, délivre-nous de la peur et de la timidité. Ô toi qui es l'auteur et le consommateur de la foi, délivre-nous du doute. Ô toi qui es la résurrection et la vie, délivre-nous de la mort. Ô toi qui est la sainte parole, délivre-nous du silence éternel des espaces infinis. Ô toi qui es la tête de l'Église, protège ton corps. Ô toi qui es l'image de Dieu, montre-nous l'éternel. Ô toi qui es le Fils bien-aimé, manifeste le Père. Ô toi qui es un sauveur tout-puissant, sauve ceux qui périssent. Ô toi qui es le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, rends-nous plus que vainqueurs. Oui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, oui, à lui soit toute la gloire et toute la puissance au siècle des siècles. Amen. Et chers amis, merci pour tout l'intérêt que vous portez à ces études depuis déjà un moment. Et soyez bénis. Dieu vous aime. Il aime tous ceux qui ont accepté sa main tendue pour être sauvés, pour être arrachés aux ténèbres. Et donc, à bientôt, je l'espère, car ces études-là sont de la plus haute importance pour votre vie présente, mais aussi pour votre vie future. Au revoir, mes très chers amis. Au revoir.